Aujourd'hui, nous vous présentons le troisième extrait du livre de Victor de la Rodire, Les Affamés de Saint-Denis, que nous avons choisi de séparer en cinq épisodes. Ce document puissant nous fait revivre, avec un réalisme saisissant, l'histoire de notre île durant la Deuxième Guerre mondiale.
Vers midi, des enfants efflanqués, rachitiques, de véritables squelettes ambulants, viennent apporter dans un petit bol émaillé et ébréché la maigre pitance de leur mère. Chaque femme a à peu près le même repas, comme s'il venait du même restaurant. Ce menu est d'ailleurs le même depuis quelque temps. Quelques rondelles de manioc bouillies et, dans une soucoupe, un peu de pâte de piment rouge. Pour beaucoup de Réunionnais, ce repas sera le seul de la journée et ce régime dure depuis plus d'un an. Cet intermède aura pour effet de suspendre momentanément l'émission de Radio Trottoir qui reprendra avec plus d'ampleur après le repas de ces dames et ce jusqu'à l'arrivée du bœuf. Peu avant, une heure arrive et prend place à la queue de la file une demoiselle d'âge canonique très connue. C'est une ouvrière typographe au journal Le Peuple que tout le monde appelle respectueusement Mamselle Angèle. C'est précisément au bureau du journal qu'elle a su la bonne nouvelle. Aussi, en quittant l'atelier à midi, elle est passée chez elle juste pour prendre une patate douce que sa vieille mère a fait griller pour le repas de midi, une tente de vaquois, son porte-monnaie et enfiler à la hâte sa meilleure robe, celle qu'elle réserve habituellement pour aller à la messe de 4 heures le dimanche. Cette robe achetée au marché noir, malgré les nombreux raccommodages qu'elle porte au dos, aux manches et aux ourlets, ce qui lui donne, vu de loin, l'aspect d'une robe décorée de broderies à jour de Sillaos. Maintenant, elle est sur les rangs, et comme tout le monde, elle pense avoir un petit morceau de viande de bœuf pour passer un bon dimanche. Pour un pauvre, un bon repas, c'est déjà une satisfaction. En attendant, elle récite quelques vers du poète réunionnais Félicien Vincent ou des extraits des Heures douloureuses de Pierre Minet. Vers 15h30, la charrette venant de l'abattoir, suivie de quelques chiens errants et d'une foule imposante, respectueuse et recueillie, arrive avec le bœuf défunt. On dirait les funérailles d'un haut personnage. Le convoi s'arrête. La foule, maintenant plus nombreuse, s'agite. Aussitôt, la porte de la boucherie s'ouvre comme par enchantement. Alors, la foule s'écarte pour laisser entrer les quartiers de viande encore saignantes. Puis la porte se referme au nez du public intrigué. De la rue, on entend à l'intérieur de la boucherie des coups de couperet et des bruits de plateaux à balance. Bruits très caractéristiques, mais aussi très significatifs pour ces pauvres ménagères qui ont pris l'habitude de gémir aux portes des boutiques depuis plus d'un an. Vers 16h, un gendarme arrive sur une vieille bicyclette. La foule pousse un soupir, à la fois de soulagement et de satisfaction. On entend des voix chuchoter. « Heureusement, la loi à l'arrivée, nous on va gagner notre bout à viande !» La foule, docile, s'écarte encore une fois pour laisser passer le gendarme qui se dirige droit vers la porte fermée et frappe avec autorité. Celle-ci s'entrouve et le représentant de la loi, comme aspiré par un puissant courant d'air, disparaît aussitôt à l'intérieur de la boucherie. Et la porte se referme sur lui. Encore un quart d'heure de patience et la porte s'ouvre de nouveau pour laisser sortir le gendarme qui va assister maintenant au commencement de cette vente de viande qui se fait attendre. Encore une fois, la porte se referme. Tout le monde a maintenant les yeux braqués sur elle. De temps en temps, des regards interrogateurs se tournent vers le gendarme impassible, puis reviennent vers cette porte de bois toujours fermée. Enfin, elle s'ouvre de nouveau et les premières ménagères, celles qui sont là depuis 9 heures, sont autorisées à entrer. Elles sont stupéfaites de constater que la moitié du bœuf a déjà disparu. Le peu de viande encore disponible est entassé pêle-mêle sur une table gluante, servant également de piste d'atterrissage à des milliers de mouches. Quelques instants après, elles en ressortent souriantes, un petit morceau de viande perdu au fond d'une grande tente de vacuas. Une cinquantaine de personnes vont entrer et ressortir satisfaites. Puis le gendarme disparaîtra comme il était arrivé. Après son départ, une vingtaine de personnes seront encore servies. Et puis ce sera l'instant tant redouté. Le boucher se présente à la porte et annonce. La viande l'a pu. Allez aux cases. Plusieurs de ces malheureuses sont là depuis le matin. Et il est maintenant 18 heures. Près de la porte se trouve justement Mademoiselle Angèle, serrant nerveusement entre ses doigts tremblants son petit porte-monnaie noir acheté chez Natema Meko bien avant la guerre. Malgré son corps affaibli par la sous-alimentation et les assauts répétés du saturnisme, elle a réussi à tenir le coup sous le soleil depuis midi, soutenue par l'espoir de rapporter chez elle un morceau de bœuf, un tout petit morceau, même de dernier choix. À plusieurs reprises au cours de l'après-midi, une vieille amie arrivée en retard et qui se trouvait au bout de la queue, loin derrière elle, l'avait suppliée de prendre un petit morceau de bœuf pour elle, car, vu la distance où elle se trouvait, elle était certaine de ne pas en avoir. Mais à chaque fois, Mademoiselle Angèle avait inlassablement répondu à cette amie « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Or maintenant, tout était fini. Elle sait que tout son temps a été perdu puisque le boucher est debout au milieu de la porte, juste devant elle, barrant le passage et criant « La viande l'a pu ! Allez aux cases !» À ces mots froids, sans appel, un immense vide l'enveloppe. Sa tête tourbillonne, ses jambes s'affaiblissent, tout son corps se glace. Furtivement, elle jette un rapide coup d'œil en direction de son amie, fragile créature que le mouvement de la foule a déjà transportée de l'autre côté de la rue. Livide, elle entend encore la voix du boucher répéter comme un glas. « La viande l'a pu ! Allez aux cases !» Alors, ses jambes déjà faibles se mettent à vaciller et ses oreilles à bourdonner. Pour la première fois de sa vie, elle sent ses forces l'abandonner et son corps défaillir. Machinalement, elle tente de s'accrocher à quelqu'un, à son plus proche voisin qui s'éloigne, déjà sans de se douter de rien. Dans un ultime effort, elle tente de s'accrocher à un battant de la porte. Mais celle-ci s'est déjà refermée sur le boucher que la foule furieuse commence à molester. Peut-être à ce moment, entend-elle l'écho de sa voix répétée à son oreille. « Chacun pour soi, Dieu pour tous !» Alors, seule, abandonnée, elle s'écroule dans la solitude du néant au milieu des vociférations de cette foule irritée et indifférente au malheur des autres. À travers ce tumulte assourdissant, à peine si l'on entend tinter l'Angélus du soir à l'église Saint-Jacques, pourtant toute proche. L'aube d'une nouvelle mentalité chrétienne se dessine déjà à l'horizon des temps. Depuis la prise de Madagascar par les Anglais, en mai, les affaires vont de plus en plus mal à La Réunion et le gouvernement se prépare à quitter Saint-Denis pour Elbourg. Cependant, Avant de se retrancher dans l'ex-ville thermale, le chef de la colonie a tenu, sur proposition de ses conseillers techniques, à assurer convenablement la défense de l'île. Pour commencer, une drague, le bout de ville 1 et ses trois chalands sont coulés dans le chenal du port de la Pointe des Galets. D'après ces spécialistes de la défense nationale, l'obstruction du chenal du port est une garantie contre un éventuel débarquement ennemi. De plus, pour assurer la défense et la protection de la cité maritime, deux vieux canons de 90 datant d'avant-guerre 1914-1918, d'une portée de 10 km seulement, sont installés au lieu dit Butte Citronnelle. Ce fort est gardé jour et nuit par 15 militaires placés sous les ordres d'un jeune et dynamique officier, le lieutenant Émile Hugo. À Sainte-Rose, un fort semblable est aménagé au sommet du piton Bellevue. Un autre sur le piton Sainte-Rose, où des militaires surveillent la mer nuit et jour. À Saint-Denis, on se prépare à des combats de rue. Pour arrêter la marche des éventuels envahisseurs, chaque soir, à partir de 18h, quelques sacs de sable sont placés sur la chaussée au milieu du pont du Butor afin d'interdire toute circulation dans les deux sens durant la nuit. De plus, un vieux rouleau compresseur est placé en travers de la route à l'entrée du pont, lui-même gardé par des soldats armés, jusqu'à 6h du matin, heure à laquelle la circulation est de nouveau autorisée. Devant le petit marché et à l'angle des rues Grand Chemin et Charles Gounod, des fortins fabriqués de sacs de sable sont également occupés nuit et jour par des sentinelles prêtes à donner l'alarme. Pendant ce temps, grâce à un émetteur clandestin de sa fabrication, fonctionnant sur 12 volts, le prince Vinsan prend régulièrement contact avec les alliés. Mais qui est ce prince Vinsan ? Né à Hue, en Annam, le 3 août 1897 de la princesse Nguyen Thi Den et du prince Bun Lan, qui règne alors comme empereur d'Annam sous le nom de Tang Tai, le prince Vinsan succède à son père après l'abdication de celui-ci et règne seul sur l'Annam, déjà sous protectorat français. Mais les Annamites se soulèvent contre l'autorité de la France. Le prince d'Annam est alors arrêté et emprisonné durant 5 mois avant d'être exilé, avec toute la famille royale, à La Réunion, où il arrive le 20 novembre 1916. Il n'a que 19 ans. Avec le temps, il s'adapte à La Réunion et les Réunionnais l'adoptent. Bon musicien, parfait cavalier, excellent électronicien, il est sollicité de partout pour ses multiples connaissances. Peu avant la guerre, il ouvre à Saint-Denis un atelier de dépannage radio dans un appartement situé à l'angle sud-est des rues Jules Aubert et La Bourdonnée. C'est de l'étage de cet atelier que partira le premier SOS de La Réunion au général de Gaulle. Après la libération de l'île, il s'envole vers l'Angleterre et participe à la libération de la France comme officier de la 9e DIC. Le 26 décembre 1945, l'avion qui le ramène dans son île d'adoption s'écrase à Bangui. Le prince Vinsan est tué. Jours avant son départ pour Elbourg, le gouverneur Pierre Aubert, accompagné du capitaine Artignan, entreprend un grand périple à travers l'île afin de s'assurer en personne de l'efficacité des fortifications de celle-ci, d'une part, et d'autre part, de l'indéfectible attachement de la population réunionnaise au maréchal Pétain. C'est au port que prend fin sa tournée d'inspection, le samedi 9 août dans l'après-midi, où, en compagnie du lieutenant Hugo, il parcourt le front de mer d'un fortin à l'autre. Le soir même, il regagne Saint-Denis par la voie ferrée. Pour la première fois, il se rend compte de la réalité. Pour lui, la partie est perdue. Aussi, malgré les assurances du capitaine Artignan, doublées de celles de son chef de cabinet, M. Pillet, il décidera seul, dans les derniers jours de septembre, de déclarer Saint-Denis ville ouverte. Dans Saint-Denis ville ouverte, presque toutes les personnes qui circulent sont vêtues de haillons. À la campagne, la situation est pire. Les travailleurs qui se rendent au chantier ou au champ portent sur eux avec respect leur dernier costume qui est, faute de savon, soigneusement lavé à l'eau de cendre chaque dimanche. Ces dames et ces demoiselles qui se rendent à la messe le dimanche matin ont passé toute la nuit du samedi à laver et sécher au fer à repasser leur dernière robe déjà déformée par un trop grand nombre de lavages. Certaines dames et jeunes filles sont même privées de sortir lorsque le vent souffle. Inutile de préciser pourquoi. Le 1er novembre 1942, on peut rencontrer dans le cimetière de Saint-Denis plusieurs personnes vêtues de costumes de rabanne ou de gonie. Un tailleur du quartier de Saint-Jacques se souvient d'avoir livré 4 complets de gonie la veille de la Toussaint. Bien que le contact de ces fibres avec la peau ne soit pas très agréable, surtout durant cette période d'intense chaleur, les malheureux sont bien obligés de supporter ce supplice supplémentaire. D'ailleurs, on n'a pas le choix. C'est le gonie ou rien. Quelquefois, dans un magasin de Saint-Denis, on rencontre bien, au marché noir, une vieille robe ou un vieux pantalon plus qu'usagé. Mais il faut avoir les moyens de se le procurer. Ainsi, dans un petit magasin du Butor, tenu par un vieux musulman ratatiné, d'apparence respectable et honnête, une robe usagée, parfois déjà raccommodée, est vendue dans l'arrière-boutique et pour rendre service à l'acheteur, au prix de 400 francs. Un costume de toile kaki usagé, 600 francs. Tandis que la journée d'un bon ouvrier n'est que de 30 francs seulement. Le kilo de bœuf premier choix, 20 francs. Le porc dégraissé, 20 francs également. Le kilo de pain, 4 francs. Et la tonne de canne à l'usine, 115 francs. Ce sont surtout les pauvres habitants des quartiers, les plus touchés par le manque de vêtements, qui viennent se faire voler dans Saint-Denis, cette ville outragée, humiliée et révoltée par la cupidité de quelques êtres sans conscience qui n'hésitent nullement à profiter de la situation pour dépouiller un peu plus ceux qui le sont déjà afin de s'enrichir davantage de la détresse des autres. C'est triste de constater que l'homme finit précisément là où commence l'intérêt. Malgré l'interdiction formelle d'écouter la radio étrangère, ceux qui possèdent un récepteur ne font que cela. C'est ainsi que le 11 novembre 1942, ils apprennent que les troupes allemandes ont, dès le début de la journée, franchi la ligne de démarcation et occupé la zone sud de la France, jusqu'ici encore libre. À Saint-Denis, ce même 11 novembre 1942, des gaullistes se manifestent clandestinement dans la nuit du 10 au 11 en déposant une magnifique gerbe de fleurs au monument aux morts de la rue de la Victoire. Gerbe que les autorités s'empresseront de faire disparaître avant même que la nouvelle ne se répande. Mais pour les Réunionnais, cette manifestation patriotique est bien le signe avant-coureur de la liberté retrouvée. De plus, les dernières mesures de sécurité prises par les autorités locales sont assez significatives. On sent que rien ne va plus en haut lieu. Pour la population de la colonie, cette gerbe du 11 novembre a embaumé l'atmosphère du parfum de la liberté, de cette liberté que l'on sent déjà planer sur l'île tout entière. Le débarquement. Dans la barque qui fend silencieusement les flots noyés par l'obscurité de cette nuit de novembre 1942, deux hommes fixent du regard le feu qui scintille sur la côte vers laquelle ils se dirigent. Bientôt, le bruit monotone et charmeur du ressac se précise, révélant ainsi aux navigateurs nocturnes la proximité de la terre que l'embarcation effleure sans tarder, avec une extrême prudence, juste en face du brasier situé en haut de la grève. Avec souplesse, les deux hommes sautent sur les galérons hélices de la côte et la barque repart aussi silencieusement qu'elle était venue. Pour ces deux officiers, la première phase de leur mission s'est bien déroulée. Il est 00h03 ce samedi 28 novembre 1942. Guidés par ce feu, volontairement mis par un correspondant local, aux ordures de la voirie municipale de Saint-Denis, située entre le cimetière de l'Est et celui des volontaires, le commandant de corvette Baraquin et le capitaine Hector Patureau sont bien arrivés sur l'île et au point prévu. C'est à partir de là, dans les ténèbres de cette plage déserte couverte de galets, derrière un dépôt d'ordures en feu, entre deux cimetières surpeuplés, que vont commencer les opérations de la libération de la Réunion. Sans perdre une minute, les deux officiers se mettent en route. D'abord, ils longent la grève jusqu'à hauteur du parc Plaisance, puis gagnent le boulevard Lancastel. En passant devant la gare ferroviaire, le capitaine Patureau, qui habite l'île Maurice et qui s'est souvent rendu à Saint-Denis, a un geste habituel. Il jette un coup d'œil à l'horloge perchée au-dessus de la salle d'attente et murmure « 00h20 ». À pas feutrés, les deux hommes longent à présent la rue Labourdonnais, déserte et silencieuse. Mais à l'approche de la rue Charles Gounod, un bruit suspect les oblige à se dissimuler derrière un arbre en bordure de la place Joffre. Des pas pressés retentissent sur le macadam de la chaussée mal empierrée. À l'allure des étoiles, ils distinguent une ombre qui remonte la rue Charles Gounod, poussant une bicyclette, et derrière elle, un énorme chien-loup. On saura par la suite qu'il s'agissait de l'adjudant Pascal qui rentrait à la gendarmerie avec son chien après une ronde nocturne. Bien que quelques jours plus tôt Saint-Denis ait été déclarée ville ouverte, les officiers de la France combattante estiment quand même préférable de rester dans l'ombre. Ils le laissent donc passer et s'éloigner avant de franchir le carrefour, puis, sans difficulté, les deux hommes arrivent rue de la Victoire et la suivent jusqu'à la mer. La mission du commandant Baraquin est très précise et comporte dans un premier temps deux opérations capitales. Premièrement, débarquer discrètement sur une plage de Saint-Denis à 00h. Deuxièmement, dès 2h, émettre des signaux lumineux en direction de la mer à partir de la grève, face à la rue de la Victoire. La première opération s'étant bien déroulée comme prévu, à 2h du matin, les premiers signaux lumineux partent de la côte du Barachois en direction d'un bateau invisible dans les ténèbres au large de Saint-Denis. Ce navire français, envoyé de Londres par le général de Gaulle, c'est le contre-torpilleur Léopard, sous les ordres du commandant Richard Evenou, qui manifeste sa joie dès réception des premiers signaux venant de la terre et annonçant que tout va bien. C'est alors que commence le débarquement des fusiliers marins, opération qui ne prendra fin sans incident que vers 3h du matin. Les premières troupes débarquées, le commandant Baraquin, chef des opérations militaires, accompagné de quelques hommes, se rend alors à l'hôtel du gouvernement où est installé le quartier général des forces armées de la colonie. En franchissant le grand portail d'entrée, il commence par neutraliser le gendarme Auclair, de faction, qui tente de donner l'alerte à l'aide de son pistolet. l'officier de la France combattante est maintenant dans la cour du gouvernement et s'avance droit vers l'encadrement sobrement éclairé d'une porte située au rez-de-chaussée du bâtiment. C'est là qu'il va élégamment cueillir le lieutenant Sanglier en lui annonçant le plus courtoisement du monde. « Au nom du général de Gaulle, je suis venu prendre la réunion. » Alors, comme s'il s'attendait à cette visite, le lieutenant Sanglier, détendu et affable lui aussi, remet calmement son arme au commandant Baraquin tout en l'invitant à s'asseoir. Mais l'officier de la France combattante lui dit « Gardez votre arme. Après tout, ne sommes-nous pas des Français entre Français ?» Après ce nouveau succès, le commandant Baraquin occupe successivement et sans difficulté la caserne Lambert, la poste et la station radio Saint-Denis que dirige M. René de Marne. À partir de ce jour, on n'entendra plus sa magnifique voix de stentor sur les ondes locales. Peu après 4 heures, ce matin-là, le commandant Richard Evenoux reçoit, à bord de son bateau, le signal venant de la terre par lequel le commandant des opérations donne le feu vert au débarquement de celui qui sera le dernier gouverneur de la colonie. À noter que de Étienne Regnault à André Capagori, l'île compta plus d'une centaine de gouverneurs, en titre, par intérim ou par circonstance, dont 4 Anglais, de 1810 à 1815. Né à Bayonne le 17 février 1894, Monsieur Jean-Charles André Capagori est gouverneur intérimaire au Moyen Congo lorsqu'il reçoit du général de Gaulle sa nomination comme gouverneur de la Réunion. À 48 ans, il est déjà grand officier de l'Ordre national du mérite. 2 ans plus tard, le 19 octobre 1944, il sera décoré par le général de Gaulle de l'Ordre des Compagnons de la Libération. Debout dans cette embarcation que l'onde apporte vers cette terre française isolée dans l'océan Indien, le gouverneur ne peut s'empêcher de penser à ses illustres devanciers. Roger Lebourg, Étienne Regnault, qui, comme lui, ont connu un matin, 3 siècles plus tôt, cet instant d'intense émotion qui précède toujours les grands moments de la vie humaine. Ému, il goûte cet instant suprême tout en regardant les premières lueurs de l'aube badigeonnées de clarté, la silhouette encore sombre des majestueux massifs montagneux de l'île. Maintenant, la grève est à quelques mètres seulement, et comme tous ceux qui ont débarqué sur l'île au cours de cette nuit mémorable, le gouverneur devra lui aussi attendre les caprices de la houle avant de sauter sur les galérons illustrés que le ressac déplace inlassablement le long de la côte à chaque mouvement dans un murmure à la fois monotone et féerique. Sur la grève, il y a pour l'accueillir le capitaine de corvette Baraquin, chargé par le général de Gaulle des opérations militaires du débarquement. Il y a également quelques fusiliers marins. Et puis il y a une vingtaine de personnes, des curieux matinaux attirés par la première fusée. Ici, l'ouverture d'une parenthèse est nécessaire. Car d'après la légende populaire, le gouverneur Capagori aurait débarqué à 8 heures au milieu d'une foule impressionnante, délirante de joie. C'est d'ailleurs ce qu'ont écrit les journaux de l'époque. Or, la réalité fut tout autre, et c'est le gouverneur Capagori lui-même qui a tenu à le préciser. Alors, exactement comme le premier gouverneur qui prit possession de l'île 3 siècles plus tôt, le dernier aura le même geste historique. Il saute. Une fusée lancée dans le ciel salue alors son arrivée. À bord du Léopard, le commandant Evenoux note « Tout va bien. Il est exactement 5 heures. »